C'est l'heure du rendez-vous avec Émile Procloutier. Bonjour.
Bonjour.
C'est un sujet bien intéressant, l'huile de palme.
Oui, êtes-vous un fan de Nutella, Paul?
Non, c'est pas vraiment.
Ah, d'accord.
Mais c'est un sujet que j'ai regardé, j'ai vu des documentaires là-dessus, puis je pense que c'est important d'en parler aux auditeurs.
Oui, c'est-à-dire qu'on a... Moi, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de problématique avec l'huile de palme, mais tu sais, j'avais comme des images pas claires, je voyais des orang-outans, puis du monde qui souffre, mais je savais pas pourquoi. Alors là, bon, je suis allé chercher quelques réponses. Commençons par le Nutella. Il y en a dans beaucoup de produits, mais dans le Nutella, 70% de ton pot de Nutella, c'est du sucre puis de l'huile de palme. Le reste, c'est choco, noisette et tout le reste, mais il y en a énormément là-dedans. Il y en a dans beaucoup d'autres produits aussi, à part le Nutella, il y en a dans les biscuits, dans le pain de mie, dans le lait maternisé, dans des plats préparés, mais on a aussi dans les shampoings, dans les dentifrices. Ça sert comme carburant, moins ici, mais en Europe, oui. Mais bon, 80% de la production d'huile de palme, ça sert à l'industrie agroalimentaire. Pourquoi ça pose problème? Alors, c'est pas tant le produit lui-même que la manière de le cultiver. Pour trouver l'huile de palme, c'est dans un palmier à huile. Puis cet arbre-là pousse uniquement dans des zones équatoriales, là où il y a énormément de forêts. Donc, pour faire de la place, qu'est-ce qu'on fait? On les coupe, ces forêts-là, on les coupe massivement. Énormément de déforestation, donc on détruit des habitats d'animaux, évidemment. Des fois, quand ça va pas assez vite, cette coupe-là, ben on brûle la forêt, histoire que ça s'en aille. On parle, là, en termes de quantité brûlée par jour, là, on parle d'un terrain de football pas tous les 15 secondes de forêt pour produire de l'huile de palme.
Ouais.
Et là, évidemment, donc ce qui remplace cette forêt-là, ça va être une monoculture, donc seulement des palmiers à huile qui poussent et qu'on coupe. Souvent dans des conditions de travail épouvantables pour les ouvriers là-bas. Et on utilise sur la culture un produit très, très toxique, un produit chimique qui s'appelle le paraquat, qui est donc hautement toxique, qui est interdit, mettons, dans l'Union européenne. Il est cancérigène, il nuit au système reproducteur des animaux, des humains, contamine les sols, contamine l'eau, contamine l'air. Bref, c'est des conditions épouvantables. Puis évidemment, quand on brûle une forêt ou quand on la coupe, ben là, elle ne peut plus faire sa job de captation de CO2. Puis quand tu la brûles, ben elle en émet énormément. On retrouve 85% de la production d'huile de palme dans deux pays principalement, c'est l'Indonésie et la Malaisie. C'est eux autres, notre garde-manger d'huile de palme mondiale, c'est là, mais la demande mondiale explose. Depuis 10 ans, la production d'huile de palme a bondi de 83%. À quoi ça sert? Ça dépend vraiment des produits, sauf que dans le Nutella, je me dis, ben ça doit servir, ça doit goûter meilleur. Pourquoi? Ça goûte rien, ça n'a pas d'odeur, l'huile de palme. Mais sa texture est semi-solide à température ambiante. Elle donne l'espèce de texture onctueuse, facile à étaler du Nutella. Et donc, si elle n'était pas là, la pâte à tartiner serait beaucoup plus liquide, semble-t-il. Elle est facile à stocker, elle résiste ou elle devient pas rance rapidement.
Et tu sais, je voulais dire, c'est comme le beurre d'arachide. Quand tu prends un beurre d'arachide naturel, c'est pas la même consistance que le beurre classique là, qu'on voit
industriel. C'est comme si il était plus pratique ou c'est comme s'il était plus
commode.
Voilà, mais, et tout ça, là, c'est pour ça. Je m'imagine que dans le dentifrice, c'est la même chose. Il y a une sorte de raison. C'est aussi un produit qui est bon marché par rapport à d'autres. Et en plus, je sais qu'en France, il bénéficie d'un avantage fiscal. Une tonne d'huile d'olive est taxée 190 euros. Une tonne d'huile de palme est taxée 104 euros. Et en plus, en Europe, ça sert comme carburant. Et ça avait l'avantage fiscal d'être officiellement un biocarburant puisque d'origine végétale. Et il y a récemment, là, après un second vote, vendredi dernier, le 15 novembre, il y a des députés français qui ont retiré l'huile de palme de la liste des biocarburants, donc qui bénéficiaient d'un régime fiscal favorable. Il n'est pas interdit, c'est juste qu'il n'y a pas d'avantage fiscal dessus. Alors tranquillement, on commence à se réveiller sur les conséquences que ça peut avoir sur la planète. Sur le plan du Nutella, y a-tu d'autres options? Y a-tu moyen d'avoir une tartinade de chocolat le matin qui ne tue pas d'orang-outan puis qui empoisonne pas les ouvriers? Ben, je vous ai apporté des cadeaux, Paul. J'en ai apporté deux. Je sais pas si peut-être que vous allez devenir un fan de tartinade de Nutella. Donc, il y en a une qui est produite par la compagnie Linde, qui est une tartinade de chocolaté, et une autre qui est faite au Québec, qui s'appelle Un petit air sucré, c'est bien ça, j'ai bien prononcé. Un petit air sucré, ça c'est fait au Québec. C'est une production artisanale, c'est un peu plus cher,
mais en termes de texture, ils arrivent à...
Ben là, écoutez, moi j'ai consulté trois spécialistes.
Okay.
Un de 9 ans, un de 7 ans et mm-hmm. l'autre qui a 4 ans et demi.
Y a-t-il un consensus?
Il y a un consensus. Scientifique. Ça passe, ça passe haut la main là, le test des papilles de mes trois spécialistes. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner de votre côté à vous, mais voilà, je vous les donne.
C'est
et gentil. Là, une de vos collègues ici dans le corridor m'a dit que elle, moi je savais pas, mais chez Costco, la marque maison, ça a l'air, qui s'appelle Kirkland, leur tartinade à eux, paraît-il, est faite sans huile de palme. Donc, ça peut être une bonne option. Je sais qu'il y a d'autres produits, comme par exemple, je sais que les produits McCain, paraît-il, depuis 2011, n'utilisent plus d'huile de palme. Mais en général, il faut chercher.
C'est pour regarder, c'est ça aussi.
Faut regarder. Puis moi, je veux dire, quand tu fais l'épicerie, c'est un peu chiant de dire, bon, là, je vais regarder, je vais lire, parce que c'est écrit en petit, puis là, savoir, celui-là, oui, non. C'est pas affiché de façon si nette. Et puis je me dis, ça pourrait être plus clair pour du monde qui décide, OK, ben là, je suis sensible à cet enjeu-là, j'ai envie de diminuer mon impact, mon empreinte écologique. En faisant l'épicerie, des fois, tu n'as pas tout le temps de faire de la lecture comme ça. Puis c'est pas si évident. Pour les trouver, ceux-là, faut chercher. Alors là, je vous le dis, là, ces deux-là, donc la marque Lindt et la marque Un Petit Air Sucré, c'est fait au Québec. Et semble-t-il, celle de Costco qui s'appelle Kirkland. La marque Kirkland n'utiliserait pas d'huile de palme. Officiellement, Nutella, ils disent qu'ils utilisent maintenant une huile de palme durable, donc qui serait plus respectueuse de l'environnement. En fait, il y a beaucoup d'ONG qui ont regardé ça de plus près et qui ont dit, écoutez, c'est plus ou moins vrai. Là, c'est où? Alors, parce qu'en fait, officiellement, cette nouvelle certification-là, ça fait que, OK, on va protéger les forêts primaires, quelques tourbières, machin, mais c'est encore de l'huile qui est issue de la déforestation, qui utilise la technique de brûlis, donc de faire brûler les forêts, et qui utilise encore le même produit chimique dont je vous parlais tantôt. Donc, c'est semi-durable, mais Nutella a officiellement dit qu'ils veulent pas changer leur fameuse recette magique qui a fait leur succès. Donc, il y a ces alternatives-là, on peut chercher, mais les deux questions que ça pose pour moi, c'est cet enjeu-là, c'est d'une part, si les gaz à effet de serre issus de cette production-là, là, qui est massivement concentrée en Indonésie puis en Malaisie, évidemment que c'est ces pays-là qui portent le poids de ces émissions-là sur leurs épaules, mais c'est pour répondre à une demande qui est
mondiale,
la nôtre.
Mondiale, oui.
Voilà. Fait que c'est OK, là. Fait que c'est qui est responsable, ultimement? C'est juste eux dans leur façon de le gérer ou c'est nous dans la façon dont on consomme? J'ai pas la réponse à cette question-là, mais je pense que ça vaut la peine de se le poser pour l'enjeu de l'huile de palme, mais aussi pour plein d'autres produits. De dire, ben là, si moi j'en veux, mais que c'est l'autre pays qui le fait, est-ce que je peux l'accuser, lui, d'être un pollueur? S'il le fait pour me satisfaire, moi. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a moyen, nous, dans notre vie, qu'est-ce qui est la différence entre, ça goûte moins bon versus, ça goûte différent et je transforme l'habitude de mes papilles? Je pense que ça, on va devoir se le poser sur plein de questions, de dire, OK, ben, qu'est-ce qui est une habitude, puis qu'est-ce qui est un besoin? Puis ultimement, je me dis, est-ce qu'un épicier, mettons mon IGA près de chez nous, est-ce qu'il pourrait, lui, de lui-même, là, dire, OK, je vais mettre un stand, quelque chose, un écriteau très clair, si vous voulez des produits sans huile de palme, c'est ici. Comme dans Fait au Québec ou dans Biologique. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être plus évident?
Gluten, ou...
Voilà, pour le consommateur. Je pense que ça dépend des épiciers. Je sais que certains choisissent de le faire. Le I dans IGA, c'est indépendant. Donc, je me dis que ça, c'est sa zone d'indépendance, peut-être, sur ce qu'il promouvoit comme produit. Mais je pense que c'est une bonne question qui mérite d'être posée parce que ça ne peut pas être tout le temps le consommateur pressé, fatigué à la fin de sa journée qui doit en plus se taper toute cette lecture-là. Je pense qu'il faut s'aider un petit peu.
Merci, Émile. À la semaine prochaine, 9h09.
Bonne dégustation.
Le résumé, Marc.